Une heure en France. Denis Farrou, Frédéric Le Tournier.
Et évidemment, on va continuer à évoquer ce midi la disparition du champion Raymond Poulidor avec...
Avec Bernard Thévenet qui a côtoyé Raymond Poulidor sur des courses au début de sa carrière. Et puis Jean-Paul Olivier, le commentateur, la mémoire du Tour de France.
Ensuite, on va se rendre sur les Champs-Élysées pour vous raconter la véritable histoire d'une brasserie mythique qui fête ses 120 ans. Arrivée aussi des Tours de France, les Champs-Élysées évidemment. Nous vous parlons du Fouquet's aujourd'hui.
On vous dira pourquoi le Fouquet's s'appelle le Fouquet's et non pas le Fouquet.
Et puis on va terminer en Vendée, où la petite église de Vouvant va accueillir un immense orgue grâce à la volonté d'un homme et de nombreux dons.
Dites-moi, c'est l'organiste de Notre-Dame de Paris qui jouer à Vouvant pour l'inauguration au printemps.
Une heure en France ensemble, c'est jusqu'à 14h.
Une heure en France, Denis Farrou, Frédéric Le Tournier sur France Bleu.
Et nous vous l'annoncions, Bernard Thévenet est en direct dans Une heure en France avec Raymond Poulidor qui nous a quittés ce matin, on en parle. Bonjour Bernard Thévenet.
Oui, bonjour.
Vous nous rappelez comment vous avez croisé Raymond Poulidor parce que vous avez couru avec Poulidor?
Ah oui, on a couru, on a fait 8 saisons. Hein. Je dirais pas ensemble, mais en même temps. Mais une image me reste de Raymond Poulidor, justement, c'est la première course que j'ai faite avec lui. C'était en 1970, c'était en fin janvier, le Grand Prix de Saint-Raphaël. Et Poulidor était déjà une grande vedette, même un mythe à l'époque. Et le fait de se retrouver à côté de lui dans le peloton, il y a un moment, quand on est jeune comme ça, j'avais 22 ans, je dis, c'est pas possible, je suis avec une des idoles de mon enfant, enfin de mes jeunes années. Ça fait une sensation inoubliable.
Bernard Thévenet, pour ceux qui ne connaissaient pas bien Poulidor, c'était quoi le style Poulidor?
Style Poulidor, c'était le style bon sens, économe, et très pugnace, hein, très accrocheur. Mm-hmm. Et c'était un garçon qui était, c'était un homme qui était très sérieux, qui faisait son métier avec beaucoup de sérieux, pas de pense relouche, pas de penchement,
c'était pas un people.
Tranquille.
C'était pas un people comme on dit aujourd'hui.
Non, c'était pas un people. Ouais. Il vivait tranquillement. Et pourtant, c'était quelqu'un qui avait vraiment les pieds sur terre. Parce que pendant un moment, c'était le français certainement le plus. Je parle pas seulement des sportifs, hein, tout français confondu, c'était certainement le français le plus connu, le plus adulé de toute la France entière.
Quelque chose vous rapprochait, Bernard Thévenet, avec Raymond Poulidor? Peut-être vos origines paysannes à tous les deux. Ça permet de mieux se comprendre.
Oui, bien sûr, oui, on s'entendait bien avec lui, même si on est adversaire, hein, parce que lui, c'est chez Mercier, moi, chez Peugeot. Ouais. Et on se tirait la bourre dans toutes les courses, mais ça n'empêche que on s'appréciait l'un et l'autre parce que on avait un peu la même philosophie, la même leçon de conduite, la même façon de voir les choses.
Bernard Thévenet, est-ce que vous pensez que c'est cette constance, cette proximité avec les gens qui fait aujourd'hui que les gens sont aussi touchés par la disparition de Raymond Poulidor?
S'ils sont touchés parce que beaucoup de gens se sont identifiés avec Raymond au cours de sa carrière parce que Raymond a une brillante carrière et il a souvent terminé deuxième, moins souvent que premier, hein, on l'a dit tout à l'heure, mais moins souvent, mais parce que beaucoup de gens se sont identifiés à lui parce que de temps en temps, il faut reconnaître qu'il a eu quelques malheurs au mauvais moment, il y a eu des crevaisons, des chutes parfois bénignes, mais qui lui ont interdit d'atteindre ses objectifs. Et finalement, dans notre vie de tous les jours, on a tous connu ça, on a tous des petits problèmes, des petits moments qui nous empêchent de réaliser nos rêves ou ce qu'on aurait voulu faire. Donc du coup, beaucoup de Français se sont identifiés à lui et il est devenu une icône parce que il y avait aussi en même temps, il y avait Jacques Anquetil qui lui gagnait souvent, qui était peut-être un peu plus hautain, qui était un peu moins apprécié des Français. Donc Raymond en a profité. Et du coup, beaucoup de Français lui ont voué une
admiration.
Amitié. Oui, exactement.
Merci Bernard Thévenet d'avoir pris quelques minutes pour être en direct sur France Bleu ce midi. Tiens, on va réviser Frédéric. Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour en 75 et 77. Merci
Bernard Thévenet.
Bonne journée.
Bonne journée.
Mais je vous en prie, Raymond méritait bien ça.
Et on fait appel à vous également, si vous souhaitez partager un souvenir, peut-être aussi un peu de peine, aujourd'hui en cette disparition de Raymond Poulidor, vous nous appelez jusqu'à 14h, on serait ravis de vous entendre, 0810 055 0 56. Et pour parler de Raymond Poulidor, qui est donc parti à 83 ans, nous faisons aussi appel à celui qui est la mémoire du Tour pour France Télévisions et qui a raconté les plus belles victoires de Poupou sur France Bleu.
Bonjour Jean-Paul Olivier.
Bonjour.
Je cherchais un mot, je n'ai trouvé que monument. C'est un monument qui est parti ce matin, Jean-Paul ?
Oui, oui, tout à fait. C'est un monument. Il y a le monument préféré des Français. Et ben là, c'est le monument préféré des Français. C'est un vous savez, il était très modeste. Il adorait le public. Il adorait la foule. Il était là. Il attendait que le dernier venu, donc pour une signature de livre, soit parti pour en parler. Il évoquait tout le monde. Il racontait ses histoires. Il était très très populaire. Ce que n'était pas Jacques Anquetil, c'était à la différence.
C'est incroyable parce que dès qu'on parle de Poulidor, forcément on parle de Jacques Anquetil, vu la rivalité dans les années 60.
C'était ça.
Ouais.
C'était ça. Mais ça a marqué parce que c'était la France. C'était une période de l'histoire de France. C'est le duel qui a marqué la France sur le plateau, etc. Pourquoi ? Parce que c'était deux personnages totalement différents. Jacques Anquetil, j'ai entendu Vendôme Bernard qui disait tout à l'heure qu'il était hautain. Il était pas hautain, Jacques. Il était timide. Ah. Il était timide. Alors, il avait peur du public. Jacques Anquetil, on l'aurait pas cru, hein. Mais il avait peur du public. Alors, il aimait rester dans son cercle restreint, là. Et donc, il ne communiquait pas beaucoup. Donc, il se contentait de gagner brillamment, etc. Tandis que Raymond, lui, issu de sa campagne de la Creuse, eh bien, il parlait à tout le monde, évoquait tout le monde, et surtout, apparaissait comme un rival tout à fait convenable, d'ailleurs, pour Jacques Anquetil.
Jean-Paul Olivier, les deux hommes se respectaient quand même beaucoup.
Et même plus que ça.
Je dirais pas ça forcément. C'est-à-dire qu'ils ne se voyaient pas beaucoup déjà. Ouais. Ils appartenaient à des marques différentes. Et puis bon, ils étaient sur le terrain. Mais Anquetil avait l'ascendant sur Poulidor parce que il était plus fin, meilleur contre la montre. Il gagnait davantage, etc. Et Poulidor essayait de faire mieux, faire aussi bien. Et donc, ça a fait. Cette dualité Anquetil-Poulidor a fait avancer le cyclisme d'un pont. Mmh. Ça a fait un bond de 10 ans, le cyclisme. Pourquoi ? Bien parce que Anquetil gagnait, mais Poulidor était derrière. Poulidor voulait faire pareil, mais donc il y avait cette rivalité extraordinaire. Et Poulidor s'est montré à un moment presque l'égal d'Anquetil, et Anquetil a voulu encore se surpasser. Vous voyez comment ce cyclisme a fait des bons.
Et puis Jean-Paul, il y avait aussi la voix, et nous ça nous intéresse à la radio, la voix de Raymond Poulidor, qui raconte ici des batailles épiques dans le Tour de France.
Le Tour de France, bon, j'aurais bien aimé évidemment qu'il soit à mon palmarès. Bon, je suis passé tellement, tellement près de la victoire. On se souvient de 64, ce fameux duel avec Anquetil, où pratiquement le dernier jour, on ne savait pas encore qui allait gagner. Il y a eu ce Tour de France 68, où j'étais renversé par une moto, où j'étais en passe de concourir pour la première place. Et après 10 ans après le duel avec Anquetil, il y a eu 74 avec Eddy Merckx, où j'ai donné du fil à retordre à Eddy Merckx. Bon, c'est des bons souvenirs, des souvenirs merveilleux. Ce qui me conforte le plus, c'est que j'ai fait pratiquement deuxième derrière trois générations différentes. Anquetil, Gimondi, Merckx, c'est ma grande fierté.
Il a quand même beaucoup de recul sur ses performances, Jean-Paul Olivier et Raymond Poulidor.
Ah oui, absolument. Mais vous savez, il a duré, c'était un athlète sain, très sain. Il se dopait pas. Un jour, il m'avait dit, on m'a donné un cachet, enfin deux cachets, je sais pas quoi. On m'a donné deux trucs, là. J'ai pas très bien compris ce que c'était. On m'a dit, tu vas voir, tu vas marcher avec ça. Il dit, je les ai pris. Et non seulement j'ai pas gagné, mais j'ai terminé dans les profondeurs du classement. et depuis, il dit, je me suis jamais plus occupé de ça. Donc c'était
On parle d'un autre temps du cyclisme quand on évoque Raymond Poulidor, Jean-Paul Olivier.
Oui, bon, vous savez, les années passent, hein, y a les standings de vie qui évoluent, il y a la course évolue, les routes évoluent, le matériel évolue, c'est à chaque fois un autre temps. Vous savez, le Tour de France a commencé en 1903, vous savez, regardez un petit peu les strates qu'il a fallu pour changer le vélo.
Mais est-ce que vous avez du coup un coup de cœur pour un coureur d'aujourd'hui, du prochain Tour de France? Vous trouvez qu'il a une dimension peut-être pas tout à fait la même, mais semblable à Raymond Poulidor?
On peut pas comparer les hommes, c'est impossible. C'est difficile de les comparer. Donc aujourd'hui, bon, bien sûr, tout le monde voit Alaphilippe l'emporter. Moi je vois bien aussi. Je pense que c'est un coureur très simple, un coureur performant qui marque contre la montre. Il a gagné à Pau au Tour de France cette année. Un coureur qui est bon contre la montre est un vainqueur potentiel du Tour. C'est comme ça que Poulidor, du reste, s'est amélioré. Il a fallu qu'il s'améliore. On lui a dit, il faut gagner contre la montre. Donc, il a fait des progrès contre la montre. Ça, il travaillait beaucoup, Raymond, parce que il avait été un jour vexé par Antonin Magne, son directeur sportif, qui partait devant Jacques Anquetil au classement général. C'est une étape qui se déroulait dans le Rhône. Mmh. Et il partait devant Jacques. Et donc de 2 minutes en 2 minutes, je crois. Et donc à un moment, Antonin Magne était derrière lui, donc derrière son coureur, quoi, oui. Derrière Poulidor avec sa voiture. Et il dit à Poulidor, garez-vous Raymond, une caravelle va passer.
C'est horrible. C'est horrible. Merci de nous l'avoir rappelé.
Il fallait à tout prix s'améliorer contre la montre. Il l'a fait et il a un beau palmarès.
Jean-Paul Olivier, la mémoire du Tour de France. À bientôt. Je vous dis à bientôt
avec plaisir.
Sur France
Merci
Bleu.
Merci beaucoup, Jean-Paul Olivier.
Au revoir.
On attend vos réactions aussi sur France Bleu. On imagine que vous êtes nombreux à vouloir nous en parler. Pourquoi pas dans Une Heure en France de la disparition de ce sportif inclassable, Raymond Poulidor. 0810 055 056. Une Heure en France ensemble jusqu'à 14h. On va continuer d'en parler évidemment. On fera un petit tour aussi sur les Champs-Élysées pour un anniversaire, les 120 ans du Fouquet's. Et puis on a plein de choses à vous raconter. Bon début d'après-midi sur France Bleu.
Bien sûr, mon amour.
Jean-Louis Aubert, vous reconnaissez sa voix, évidemment. C'est son dernier titre, bien sûr. Ah oui, bien sûr, j'ai pas relevé le jeu de mots, vous êtes très en forme. On va accueillir Eliane, qui nous a appelé pour nous faire partager un souvenir autour de Raymond Poulidor. Vous savez peut-être, il nous a quittés ce matin à l'âge de 83 ans. Bonjour Eliane.
Oui, bonjour à tout le monde et merci de prendre mon appel. Oui, effectivement, j'ai eu les larmes aux yeux parce que Monsieur Poulidor ressemblait à mon papa un petit peu, mais surtout que mon papa l'avait accueilli avec d'autres personnes. Ils avaient créé un club de foot, de cyclisme dans une petite localité, donc du Haut-Doubs, et Monsieur Thévenet est venu également. Donc, j'ai beaucoup admiré Monsieur Poulidor, puisque je suivais aussi les courses, le Tour de France, etc. Et donc, c'est un grand personnage qui est parti. Je l'ai vu récemment, enfin, il y a 5-6 ans, à Besançon, dans le cadre d'un salon du livre. Il présentait son ouvrage, ou quelqu'un qui a écrit pour lui un ouvrage qui lui était consacré. Et bon, cette personne m'a toujours rappelé mon papa, qui lui, enfin, il se ressemblait un peu. Et bon, tous les deux, ben, dans le cyclisme, mais Monsieur Poulidor, très connu, et bravo à lui pour ce qu'il a fait, et qu'il est resté un personnage simple, mais surtout très populaire et apprécié de tout le monde.
On sent l'émotion dans votre voix, Eliane.
Oui, c'est vrai. Pourtant, moi, je ne pratique pas le cyclisme, mais j'ai beaucoup suivi, et en particulier quand cette personne est venue sur le secteur du Haut-Doubs.
Ouais.
Voilà.
Ça vous a touché. Mais on est ravis que...
d'avoir pris l'appel et je laisse la place à d'autres auditeurs que je salue également.
Mais merci de votre appel, Eliane. Ça nous a vraiment fait très plaisir de vous entendre aujourd'hui, nous parler de Raymond Poulidor et de vos souvenirs. Je rappelle que vous appeliez de Besançon. Merci beaucoup, Eliane. Bonne journée.
Au revoir,
à bientôt, au revoir. Une heure en France, ça continue. N'hésitez pas, faites comme Eliane, pourquoi pas. Nous appelez au 0810 055 056. On sera ravis de vous entendre avant 14h.
France Bleu.
France Bleu. Partout en France, la radio des Bleus. En route pour l'Euro 2020. France-Moldavie. Sur France Bleu, en Facebook Live ou sur francebleu.fr. Demain, dès 20h30. France Bleu. La radio des Bleus.
France Bleu présente Blue Eyed Soul, le nouvel album de Simply Red. Simply Red, une voix toujours plus émouvante, un nouvel album toujours plus funk. Blue Eyed Soul, le nouvel album de Simply Red, disponible maintenant en CD et sur les plateformes digitales. Un album France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr.
Un message d'Agathe Le Caron.
Quand on est maman et qu'on anime la maison des maternelles, forcément, on a envie de se mobiliser et de protéger les générations futures. Moi, Agathe, je recycle. J'ai commencé avec les produits de première nécessité, comme mon frigo. On ne réalise pas que notre vieux frigo contient des gaz qui ont 10 000 fois plus d'impact sur le climat que le CO2. Alors autant le dépolluer en France. Aucune excuse acceptée. Maintenant, c'est à vous d'agir. Plus d'informations sur écosystème.eco.
Écosystème, recycler, c'est protéger.
FranceBleu.fr. Tout France Bleu en replay, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr. France Bleu aime la musique live, en français dans le texte.
Fatigué, j'ai la gueule de bois, toute la nuit j'avais été mon père. Dans le feu, j'ai remis du bois, dans la cheminée, avait pas son père.
Retrouvez Jacques Dutronc, la fille du Père Noël, l'un des titres de France Bleu part en live, chaque soir sur France Bleu, dès 22h.
Je ressuscite.
du sein de Bakélite qui s'agite.
Sex and Sense, ça réconforte au mois de novembre, j'ai envie de vous dire. C'était Serge Gainsbourg sur France Bleu.
Une heure en France, Frédéric Le Tournier, Denis Farroux sur France Bleu.
L'une des plus célèbres brasseries de France qui se trouve sur la mythique avenue des Champs-Élysées à Paris fête ses 120 ans cette année. Il s'agit du Fouquet's qui a une véritable histoire à raconter, parfois évidemment tourmentée.
Nous sommes avec l'historienne qui a écrit 99 Champs-Élysées, une autre histoire du Fouquet's.
Elle est là, bonjour Marion Godefroy, tailleur de Bormes.
Oui, bonjour et merci de cet entretien.
Avec plaisir. Alors pourquoi dites-nous une autre histoire? Celle qu'on connaît à départ d'ombre n'est pas tout à fait vraie? Pourquoi ce terme?
Alors, il n'y a jamais de vérité en histoire, comme vous le savez. Non, et la vraie question à poser, c'est est-ce qu'on a déjà fait une histoire totale sur un restaurant? Et la réponse était non. Et le groupe Barrière, à l'occasion des 120 ans du Fouquet's, a chargé une historienne, en l'occurrence moi, d'écrire cette histoire et de proposer des thématiques qui permettent de donner l'ADN d'un lieu de mémoire de notre patrimoine.
Alors on vous a lu, évidemment, un certain Louis Fouquet a racheté un estaminet en 1899, c'est bien ça?
Ben non, pas du tout.
Ah.
Alors, vous ne m'avez pas lu. Alors, Louis Fouquet n'a rien racheté. Il a pris un bail dans un établissement qui était déjà un café et qui était déjà un café pour la haute société européenne sur les Champs-Élysées.
C'était ça la légende urbaine. C'était pas du tout un établissement pour cocher, ce qu'on a pu lire ailleurs.
En fait, j'ai lu la légende.
C'est ça. C'est ça.
Alors... Oui, alors ça a certainement été écrit faute de mieux, mais il faut bien se rendre compte que à la belle époque, dans le contexte de ce que sont les Champs-Élysées, c'est un endroit extrêmement important qui est fréquenté par donc toute cette haute société, et donc le café qui est pris par Louis Fouquet s'adresse à cette société-là.
Vous avez compilé énormément d'infos pour sortir cet ouvrage. Est-ce que vous avez eu beaucoup de surprises, du coup, dans les informations que vous avez compilées, les photos que vous avez pu voir?
Alors, des surprises, oui et non. C'est-à-dire que le dossier est triple. Ça montre un merveilleux établissement qui est le patrimoine architectural et une personne qui l'a construit qui s'appelait Joseph Thom, qui est un des entrepreneurs de premier plan du Second Empire. C'est lui qui va percer l'avenir de l'opéra. Et j'ai été vraiment très étonnée qu'il ait le nez fin à ce point-là pour décider que cet emplacement-là allait valoir quelque chose sur les gens, les Champs-Élysées. Ce qui m'a aussi extrêmement intéressée, c'est de voir que on l'a oublié, mais le Fouquet's a été un magnifique restaurant qui a été étoilé, qui a été mis en place par quelqu'un qui s'appelle Léopold Mourier, qui était président de la Société de Cuisiniers de France, qui était l'ami d'Auguste Escoffier et de Francis Carton, et qui avait une carte absolument remarquable. Et puis, ce qui m'a intéressée, c'était aussi d'aller un petit peu derrière le mythe, parce que ce mythe était mité, justement, par tout un tas de jolies photos, et qui ne disait pas ce que ça voulait dire de déjeuner au Fouquet's.
Mmh. Pourquoi le Fouquet's? Pourquoi cette apostrophe S? Ça vient d'où, cette histoire?
C'est un génitif. À l'époque, le Fouquet's, c'est un bar. Et vous avez beaucoup de bars qui se constituent. Un peu plus tard, vous aurez le Harris Bar. Et Louis Fouquet a décidé de faire le Fouquet's American Bar, puis c'est devenu le Fouquet's Bar, et par élision, on a enlevé le bar.
L'industrie du cinéma a toujours fréquenté le Fouquet's. Est-ce que c'est associé aussi à, il faut bien le dire, un lieu d'élite? Il y avait aussi Colette, Godard, Chabrol, Raymond Poincaré qui fréquentaient le Fouquet's.
Alors, ça tient à la situation particulière du lieu. Vous avez à la fois effectivement de très nombreux théâtres, de très nombreuses salles de spectacle où les cinémas vont s'installer dans l'entre-deux-guerres et après la Seconde Guerre mondiale, et également effectivement tout un monde politique qui se croise et qui en fait un véritable café professionnel de cette industrie du cinéma et du monde politique.
Alors si malheureusement on a beaucoup parlé du Fouquet's l'année passée, c'était pas forcément pour de bonnes raisons, hein. C'était suite à des saccages lors de manifestations de gilets jaunes. Il y a eu de longues réparations, de remises à neuf, et maintenant le Fouquet's a rouvert, enfin depuis quelques mois maintenant.
Alors c'était la troisième fois que le Fouquet's en fait fermait. La première fois, ça a été la mise en place des décors de Jean Royer. Puis il y a eu une deuxième campagne dans les années 2015-2017 qui ont été la rénovation de la salle de restaurant qui, comme vous le savez, est classée et inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Et effectivement, il y a eu 4 mois de travaux suite aux mouvements sociaux extrêmement importants qui ont pris ce qui était un symbole du patrimoine pour cible, comme ils ont pris pour cible ce qui était la Marianne à l'Arc de Triomphe.
Alors j'ai peur de dire une bêtise, parce qu'il y a du vrai, du faux, on ne sait plus.
Attention, Frédéric.
Est-ce que c'est vrai que c'était un lieu fréquenté par des aviateurs au début de l'histoire du Fouquet's?
Alors, c'est une question de configuration simple et géographique. Si vous traversez l'avenue du Champs-Élysées et que vous allez au 104, vous aviez un cercle de jeu. Et ce cercle de jeu était propre, effectivement, à l'aéronautique et notamment aux As. Et c'est la raison pour laquelle c'est une pratique des officiers d'aller au bar, de jouer aux cartes et puis après d'aller dans un autre bar. Donc ils traversaient la rue et c'est pour ça qu'il y a eu cette fréquentation de ceux qu'on a appelés les As après la Grande Guerre.
Bien vu Frédéric, c'était pas une légende ça. Les 120 ans du Fouquet's sur les Champs-Élysées à Paris.
Et je rappelle Marion Godefroy-Taillard de Bormes que vous avez sorti l'ouvrage 99 Champs-Élysées, une autre histoire du Fouquet's qu'on va lire davantage. Pour l'instant c'est en interne, mais il sera disponible à la vente d'ici quelques temps.
Oui, sans doute.
Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui dans Une Heure en France.
Mais c'est moi.
À bientôt, bonne journée, au revoir.
Au revoir.
Les 120 ans du Fouquet's, donc. Une Heure en France, ça continue avec Ed Sheeran en musique et I Don't Care. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance, hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. Are you making me feel? I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Ooh, 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 ooh. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. At a party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. With all these people all around, I'm crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy 'cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah. I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Ooh, 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 ooh. Oh yeah, yeah, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody.
only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby. Yeah, 'cause I don't care.
Sur France Bleu, c'était I Don't Care. Nous accueillons Micheline. Bonjour Micheline.
Bonjour. C'est pour parler de Poupou.
Eh bien oui Micheline, vous nous appelez.
Vous êtes la bienvenue.
Vous nous appelez depuis La Rochelle.
Oui, moi j'habite à La Rochelle aussi.
Et quel est votre souvenir associé à Raymond Poulidor, Micheline?
Ah, alors moi, mon papa aimait beaucoup le Tour de France. Hein. Et... ben, j'ai toujours ce souvenir de Poupou, de Poulidor, parce qu'on avait été le voir.
Ouais.
Et on l'avait vu de près, il avait parlé avec papa, et moi j'étais toute petite, et j'étais toujours en train de frapper dans mes mains, et toujours en train de dire, allez Poupou, allez Poupou. Et il m'a pris dans ses bras, il m'a pris au cou. Et il a dit à papa, il dit, mais qu'est-ce qu'elle est mignonne, cette petite. Et ça, j'ai toujours ce souvenir, me revoir dans les bras de Poupou. Et il m'avait fait la bise et tout, vraiment. Et c'est un monsieur qui était très gentil, très proche des gens, et vraiment très bon. Et puis il aimait ce qu'il faisait aussi. Hein,
ah, ça, on l'a entendu.
On comprend bien, en tout cas, Micheline, que ces quelques secondes où Poulidor vous a pris dans ses bras et vous a fait un bisou sur la joue, ce sont des choses qui marquent à jamais. On l'a entendu au son de votre voix.
C'est gravé,
oui.
Mais c'est non.
Ça m'a, et j'ai toujours cette image, je me revois toujours.
Ah oui. C'est gentil de l'avoir partagé avec nous aujourd'hui, Micheline. Merci de nous avoir appelé.
Et malheureusement, parce que j'étais petite, les parents ont déménagé plusieurs fois, oui. Et papa m'avait prise en photo avec Poupou.
Oui.
Et malheureusement, la photo,
elle a disparu
avec d'autres photos. Et je n'ai plus de photos de Poupou.
Eh bien, on a l'occasion d'en parler.
Mais
pour
au moins,
le faire revivre
d'évoquer
aujourd'hui.
Les souvenirs. Merci beaucoup à Micheline. Merci à vous de nous avoir parlé de vos souvenirs avec Raymond Poulidor. C'est ça qu'on était content de partager ce moment avec vous dans Une Heure en France. Restez avec nous. Un orgue va être mis en place dans une toute petite église en Vendée. Tout ça grâce à la volonté d'un homme.
À Vouvan.
À Vouvan. Ce sera juste après L'amour à la machine.
Passez notre amour à la machine. Faites voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant, pour retrouver le rose initial de ta joue devenue pâle, le bleu de nos baisers du début, tant d'azur perdu. Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant? Matisse, l'amour, c'est bleu difficile, les caresses rouges fragiles, le soleil de la ville et tabasse
Et alors, elle passe. Allez, à la machine. La misère de nos gentils petits grands-pères, noirs les mains dans les boucles blondes, tout autour du monde. Passez notre amour à la machine, faites bouillir pour voir si les couleurs d'or revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant? Allez, à la machine.
Allez, à la machine, l'amour à la machine. C'était Alain Souchon sur France Bleu.
Une heure en France, Denis Farrou, Frédéric Le Tournier sur France Bleu.
Nous nous posons une question vendéenne ce midi. Comment un village du département, certes classé parmi les plus beaux villages de France, peut-il se payer un orgue monumental pour son église, déjà classée monument historique ?
C'est un peu le hasard qui fait bien les choses. C'est ici que l'ancien directeur du Conservatoire de Lille et aussi délégué général des chœurs de Radio France s'est installé pour sa retraite.
Oh, une retraite visiblement active. Il est à l'origine de la collecte de fonds et de la construction de l'orgue. Il est avec nous. Bonjour Yves Rousseau.
Bonjour.
Alors on sait, nous savons, que quand vous êtes arrivé à Vouvan, dans le sud de la Vendée, vos premières visites ont été pour le maire et le curé. Vous aviez déjà une idée en tête.
Ah oui, oui, quand on est passionné par l'orgue, on a une idée en tête, c'est qu'il y a un orgue dans toutes les églises. Et ce qui est très étrange, dans ce village du sud Vendée, donc comme vous avez dit, qui est l'un des classés parmi les plus beaux villages de France, c'est qu'il n'y avait pas d'orgue dans cette belle église romane. Voilà. Donc j'ai tout de suite été sonné aux portes du curé et du maire, et je leur ai proposé de lancer ce projet, de construire un orgue pour cette cité qui est très très visitée l'été par les touristes. Et donc qui apportera une animation supplémentaire au niveau patrimoine à la commune.
Oui, ils ont évidemment dit banco tous les deux, le maire et le curé, c'était un peu du pain béni pour eux, si j'ose dire.
Non, 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 n'osez pas.
On écoute le maire ravi de Vouvant, Jacques Hiroy.
C'est grâce à la rencontre du village avec ce monsieur qui a quitté Montmartre quand même pour venir habiter dans notre village. Ça lui a beaucoup plu et c'est fabuleux parce que au-delà de ce qu'il nous offre au niveau culturel, au niveau musical, c'est un homme absolument sympathique qui se dévoue nuit et jour pour que l'activité dans le village soit maintenue et qu'il y ait une vraie vie sympathique dans ce village, qu'on y arrive de plus en plus.
Et on sent qu'il est ravi. Dites-nous, il vous fallait un montant quand même assez impressionnant. Vous n'avez jamais douté de l'obtenir ?
Ah ben, il ne faut pas douter, sinon on fait autre chose. D'autant que voilà, c'est un village de 830 habitants, donc vous devez bien imaginer qu'il y a des préoccupations plus importantes que de construire un orgue quand il y a le toit de la cantine qu'il faut réparer ou refaire les rues dans le village. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, il faut partir du principe que le patrimoine, c'est à tout un chacun. Donc aussi bien pour le patrimoine qu'il faut restaurer que celui qu'il faut doter pour les générations à venir. Donc c'est beaucoup plus séduisant que chacun mette la main à la pâte. Donc je me suis lancé dans ce qui sera un peu vraiment une première en France pour des constructions ou restaurations d'orgues, c'est de partir du principe qu'il sera financé quasiment, pratiquement que par des donateurs des fonds privés. Ce qui a entraîné quand même depuis une aide du département de la région.
Il y aura une plaque avec leur nom, le nom de tous ceux qui ont participé, non loin.
Alors,
de l'orgue.
Dans l'orgue, il y aura, quand on ouvrira l'orgue pour aller à l'intérieur, il y aura sur un grand parchemin, il y aura toute la liste des donateurs, ceux qui le veulent, qui seront indiqués, de même sur la plaquette qui sera faite pour l'année inaugurale de l'instrument.
L'orgue.
Actuellement, on en...
Oui. L'orgue est en construction actuellement ?
Alors, l'orgue est en construction parce qu'un orgue, c'est une construction qui est totalement artisanale. Hein. Le facteur d'orgue La manufacture fait tout lui-même, ses tuyaux, la mécanique, le buffet en chaîne. Et donc, ça prend quand même pas mal de mois. Donc, l'orgue est en construction depuis un an. Et l'orgue sera en montage dans l'église de Louvain à partir de février prochain.
Les dimensions sont incroyables de cet orgue. On en a parlé avec Denis.
Attention, vous avez dit monumental quand même. Non, faut être raisonnable. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que c'est un instrument. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a quand même une certaine désertification du culte dans nos églises. Dans le secteur, par exemple, la paroisse, en fait, la paroisse est constituée de 15 villages. Donc, au niveau du culte, il y a une messe par dimanche. Mais la volonté de construire cet instrument, c'est pour la vie culturelle, puisque, du coup, il y aura un festival d'orgue à Louvain l'été, avec un récital d'orgue toutes les semaines. Et puis, il y a d'autres moments de l'année, fête de la musique, les journées du patrimoine, voilà.
Et donc, un très beau concert d'inauguration aussi, je crois, qui vaut le détour.
Oui, le dernier week-end de juin, il y aura toute la fête qui organise la Notre-Dame de Paris, Éric Lebrun qui est organiste à l'église Saint-Antoine des 15 à Paris, Marie-Ange Laurent qui organise Saint-Antoine de Lorette à Paris et Guillaume Marionneau qui est le titulaire de la cathédrale de Luçon.
L'arrivée prochaine d'un orgue à Vouvan en Vendée, et faites-nous signe pour l'inauguration, Yves Rousseau.
Oui, mais alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on cherche encore des sous. Voilà, actuellement, nous avons déjà recueilli 303 dons. Mmh. Voilà. La construction globale de l'orgue, c'est un budget de 421 000 euros. Oui. Et il nous reste encore 118 000 euros à trouver avant la fin mai.
Alors, l'appel est lancé.
Et on relaiera sur FranceBleu.fr. Merci beaucoup de nous en avoir parlé aujourd'hui, Yves Rousseau.
Un grand merci à vous, bon après-midi.
Bonne journée en Vendée.
Au revoir. Et on va terminer cette heure passée ensemble en France avec Coldplay et Clocks. Et puis on parlera peut-être aussi de vos souvenirs à vous, Denis, de Raymond Poulidor. Ça vous parle. Restez avec nous sur France Bleu. À tout de suite. Bah oui, Clocks, il est l'heure là, 13h57. Merci Coldplay. On referme cette heure passée ensemble en France. On a beaucoup parlé évidemment de la disparition du champion Raymond Poulidor. On a posé la question à vous qui nous écoutez, mais je ne l'ai pas posée. Celui qui m'accompagne tous les jours, à vous, Denis Farou, est-ce que vous l'avez rencontré, Raymond Poulidor ?
Comme journaliste, oui, plusieurs fois, mais mes souvenirs les plus marquants remontent à beaucoup plus loin. J'avais 8 ou 9 ans. J'ai le souvenir de lever à 4h du matin pour aller voir Raymond Poulidor au col de Porte en Chartreuse, en Isère. Parce que, voyez-vous, Frédéric, on n'allait pas voir passer le tour, on allait voir passer Raymond Poulidor. Ça durait 30 secondes, on s'est élevé à 4h du matin et on rentrait à la maison. Et ça, je peux vous dire, ça vous marque à vie.
Eh oui, mais ça, c'était en tant qu'enfant et en tant que journaliste, alors, il était comment ?
Ah bah écoutez, en tant que journaliste, on a fait 100 mètres avec lui entre le Palais des Congrès et un restaurant où on devait l'interviewer. On a mis 2 heures.
Ah bah, d'anecdotes, j'imagine.
Non, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui l'accostait pour signer des autographes.
Vous avez retrouvé une pub, Denis ?
J'ai retrouvé une pub de la Samaritaine. Poulidor rentre à la Samaritaine et achète un maillot jaune en disant « On trouve de tout à la Samaritaine, c'est extraordinaire ». Il avait de l'humour.
Bah merci d'être venu avec nous sur ces souvenirs aujourd'hui.